Recoin de la Bible, un podcast pour nous immerger dans les Écritures. J'ai toujours aimé les mandarines. Ma grand-mère le savait, et dans mon enfance, il y en avait chez elle dès que c'était la saison. Un jour, nous avons vu une mandarine qui pourrissait au fond du plat. Nous nous sommes empressés de retirer les autres mandarines pour les sauver et éviter qu'elles ne pourrissent aussi. Comme c'est repoussant un fruit qui pourrit et qui tombe en décomposition. Comme c'est triste, un fruit qui pourrit et qui devient inutile. Il n'a plus qu'à être jeté. Il est perdu. Avec la corruption du péché, c'est un peu pareil. Ça gâte tout. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incorruptibilité. Bonjour Étienne.
Bonjour Hervé.
Mais avant de parler de l'incorruptibilité en soi, nous allons parler de ce que nous connaissons bien mieux, c'est-à-dire la corruption. Alors, la corruption, quand est-elle apparue? Quelle en est la cause? Quelles en sont les conséquences? Et en fin de compte, la corruption, c'est quoi?
Alors, quand est-elle apparue? Quand on ouvre la Bible, il ne faut pas aller loin pour trouver l'explication. Le jardin d'Éden, où l'homme avait été placé, où tout était à sa disposition, mais aussi apparaît le serpent ancien qui met en doute la parole de Dieu. Et Ève d'abord et Adam ensuite se laissent entraîner vers cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui avait été interdit par Dieu. C'est la désobéissance. Et voilà le début de la corruption qui va entrer dans le monde.
Donc, la corruption entre dans le monde par le péché, par la chute d'Adam et Ève. Ça, c'est ce qui concerne l'homme, la race humaine. Et en sachant que, en dehors du temps, la corruption était déjà un fait au travers de Satan, qui s'était corrompu en voulant s'élever lui-même. C'est bien ça.
C'est bien ça. Alors, quelle en est la cause ? Eh bien, on trouve dans la parole trois expressions de la cause de la corruption. Et on peut les lire dans la première épître de Jean, au chapitre 2, dans les versets 16 et 17. Et on parle là de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie et de la convoitise des yeux. Et voilà donc ce que Satan, le serpent ancien, a proposé à Ève et Adam, c'est de regarder cet arbre, de voir son apparence qui était belle, que le fruit était désirable et qu'il allait leur apporter quelque chose qu'ils ne possédaient pas. Et donc, ils en ont pris, ils en ont mangé.
Oui, enfin, donc la corruption est entrée en Éden par l'intermédiaire du serpent et Satan lui-même a tenté Ève aux trois niveaux de son être, au niveau de son corps, de son âme et de son esprit. Donc, il revient aux trois éléments qui sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si je relis le texte de Genèse 3, il est bien dit « Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, etc. » Et il nous est dit « Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. » Donc rien que dans ce verset, nous voyons tous les trois éléments de son être qui vont être attaqués par la corruption et qui vont être corrompus très vite. Et la corruption va donc atteindre la race humaine au travers de cette chute dans la désobéissance de Dieu, à tous les niveaux de l'être.
Et donc les conséquences vont être visibles et sont aujourd'hui visibles. Il suffit de regarder les choses qui sont sous nos yeux maintenant et on voit donc qu'il y a d'abord dans la suite de la Genèse, au chapitre 3, d'abord le labeur dans lequel l'homme va entrer. Il va devoir travailler la terre, la sueur de son front. Et puis, Dieu lui annonce qu'il va croître, qu'il va pousser des épines et des ronces. Donc des choses qui ne conviennent pas, justement, pour cultiver cette terre. Et enfin, eh bien, il lui annonce que les conséquences de son péché, de sa désobéissance, va entraîner la mort.
La mort, donc une conséquence flagrante de la corruption qui est introduite dans le monde. La mort. Et en effet, la corruption, on pourrait dire, affecte tout ce qu'elle touche pour la désintégrer, pour décomposer, pour faire dépérir tout ce qui est atteint par la corruption du péché.
Alors, une conséquence suivante, c'est que, alors qu'Adam et Ève se trouvaient dans la présence de Dieu dans ce jardin, eh bien, ils sont mis dehors de ce jardin et ils ne peuvent plus y retourner. Il y a donc cette distance vis-à-vis de Dieu qui vient se présenter. Et puis, il y a ce qui suit. Ils ont deux enfants, Abel et Caïn, des noms bien connus. Et voilà qu'ils offrent quelque chose à Dieu. L'un reçoit l'agrément de Dieu sur ce qu'il offre, Abel, et Caïn, eh bien, n'est pas ce qu'il a donné n'est pas agréable à Dieu. Il donne du fruit de la terre, celle qui venait d'être
maudite.
Maudite, voilà, maudite par Dieu lui-même. Et s'ensuit de la violence. Je pense que le monde entier connaît cette expression que Caïn se tourne vers son frère et le tue.
Une violence qui commence au niveau familial, un fratricide. La violence, c'est quelque chose qui commence véritablement au cœur même de la famille, à cause du péché, et qui va s'étendre dans la société et dans toute l'humanité très vite.
Et on le voit aujourd'hui, comment la nature souffre, comment la nature est détruite par l'homme, que ce soit dans la faune, dans la flore, la nature est vraiment touchée de plein fouet par cette corruption qui est venue dans le monde.
Oui, en fin de compte, tout ce que l'homme devenu pécheur touche, eh bien, il le contamine, il corrompt absolument tout ce qu'il touche et tout ce dont il utilise, tout ce qu'il utilise, et l'interaction de l'homme avec... en fait, la corruption est contagieuse, elle se répand, et au gré de ce que l'homme peut faire ou vouloir faire. Et tout est affecté. La création totale, complète de Dieu a été affectée par cette corruption introduite par le péché dans le monde. Et il s'agit d'une corruption qui est donc individuelle, comme on l'a vu, mais qui nous est dit en Genèse 6 que le monde a été rempli de violence. Alors, il nous est dit que c'est l'ensemble du monde qui est rempli de violence, mais que chacun avait corrompu sa voie. Et donc, c'est un état général, mais aussi personnel de chaque individu. Et nous évoluons dans un monde qui n'a pas changé, au contraire, qui n'a fait qu'évoluer en s'éloignant de Dieu, toujours évoluer dans le mal.
Et alors, il y a aussi cet éloignement de Dieu qui, malgré tout, reste profondément ancré dans l'âme de tout homme. Et donc, ils ont recherché par leurs propres moyens de se créer une divinité. Et plutôt que de retourner vers Dieu, ils ont changé la gloire de Dieu, la gloire du Dieu incorruptible, en la ressemblance d'images d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de reptiles, de quadrupèdes, toutes sortes de choses qui existent encore aujourd'hui dans le monde, où on voit comment l'homme, plutôt que de s'approcher de Dieu, s'éloigne par le péché qui est en lui.
Donc cette corruption amène une idolâtrie flagrante. Et le cœur de l'homme corrompu ne recherche pas instinctivement Dieu, le Dieu juste, le Dieu saint, le Dieu incorruptible. Le cœur de l'homme corrompu recherche ce qui lui ressemble. Donc c'est un peu un cercle vicieux. L'homme est corrompu et il imagine des choses corrompues qui vont l'emmener toujours plus loin dans son chemin de corruption. C'est quand même quelque chose d'important de savoir que, en fin de compte, on pourrait dire que la corruption, c'est tout ce qui dénature ce que Dieu a créé initialement, y compris l'homme, à tous les niveaux de son être, que ce soit son corps, son âme ou son esprit. La corruption est bien implantée et elle est comme une gangrène qui prend de l'ampleur et qui gagne à l'intérieur de l'homme et à l'extérieur, on pourrait dire. Et je répète, ce qui est corrompu est voué à se dissoudre, à se désintégrer, à pourrir, à sentir mauvais. Et c'est quelque chose que nous comprenons bien dans ce monde. Nous voyons bien qu'il n'y a rien qui persiste dans ce monde. Rien ne garde sa fraîcheur et sa pureté d'origine. Tout dépérit. Tout est affecté par le péché. Alors nous l'avons compris, la corruption est donc le propre de l'homme. Mais qu'en est-il de Dieu ?
Voilà. Alors là, nous sommes dans un contraste très puissant, puisque nous l'avons déjà cité une fois, nous allons considérer alors la personne de Dieu lui-même dans ce que l'on peut comprendre, toute chose nous gardant à notre place, et si on peut connaître Dieu comme étant esprit, et qu'il possède plusieurs attributs. Donc des attributs, c'est ce que l'on peut comprendre et connaître de Dieu vis-à-vis de ce que nous sommes nous-mêmes ou vis-à-vis de tout homme qui sont sur la terre. Et donc un des attributs de Dieu est justement son incorruptibilité.
Oui, donc c'est un attribut, on pourrait dire, qui est relatif et qui ne se conçoit pas, et qui ne se conçoit qu'en contraste avec la corruptibilité. C'est parce que la corruption est intervenue, est apparue, que nous apprenons à connaître Dieu comme le Dieu incorruptible. C'est bien juste. Et ce qui est merveilleux, et nous allons le voir au travers de certains passages des Écritures, c'est que ce Dieu, ce grand Dieu des cieux, ce Dieu créateur, ce Dieu saint, eh bien, face à cette corruption qui s'est répandue devant ses yeux, eh bien, il reste incorruptible. Ce Dieu saint n'a jamais été, ne sera jamais contaminé par cette corruption introduite par l'homme et par le péché.
Alors, on peut considérer les avantages alors que nous pouvons recevoir justement de cet attribut de Dieu. Et comment aussi Dieu nous a parlé pour nous montrer cette incorruptibilité. Et donc il nous a parlé d'abord par sa parole. Nous possédons la Bible et nous pouvons alors recevoir cet évangile, cette bonne nouvelle du salut que Dieu nous présente dans son Fils Jésus-Christ. Et lui-même a pu, par sa vie, par sa mort, eh bien, faire luire la vie éternelle et l'incorruptibilité par l'Évangile.
C'est magnifique de savoir que devant un tableau aussi désespérant que la corruption qui existe parmi les hommes, dans toute l'humanité, que Dieu, lui, reste pur et immuable. Il est invariable. Et son conseil de grâce, qui date d'avant même la création du monde, est également invariable. Dieu n'a pas changé, et malgré notre état déplorable, malgré la corruption, le bourbier dans lequel nous sommes, eh bien Dieu révèle sa grâce. Et cette grâce, elle est aussi liée à son incorruptibilité. C'est très touchant de savoir ça. Il n'est pas possible de rétablir, on va dire, l'incorruptibilité dans le monde, mais par la grâce de Dieu, au travers de Christ et de l'Évangile, de la bonne nouvelle, du salut en Christ, eh bien, nous, il est possible de trouver et de trouver accès à l'incorruptibilité au travers de Jésus-Christ. Jacques 1, verset 17 nous dit « Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. » Eh bien, c'est de ce Dieu-là que nous recevons la bonne nouvelle de la grâce et de en Jésus-Christ. Alors, c'est un énorme avantage de savoir que notre Dieu est incorruptible et que cette grâce qui nous est offerte vient d'un Dieu totalement incorruptible.
Alors, comment est-ce que nous pouvons, nous recevons cela de Dieu, mais que va-t-il se passer pour que nous puissions participer à cette incorruptibilité? Et donc la parole vient nous dire que nous sommes régénérés, que nous recevons non plus une semence corruptible, celle qui se transmet de génération en génération par l'homme, mais une semence incorruptible qui vient justement de Dieu par Jésus-Christ.
Donc là, nous sommes en train de parler de la vieille nature adamique qui, elle, est corrompue et irrécupérable, elle est incurable. Mais Dieu, par l'Évangile, par le salut qu'il nous offre en Jésus-Christ, ce grand salut dont il y a énormément d'aspects, nous pouvons naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, crée un nouvel homme qui, lui, est incorruptible et qui nous est donné par pure grâce. Et donc, nous avons, au travers de ce nouvel homme, de cette nouvelle naissance spirituelle, accès à l'incorruptibilité en Jésus-Christ. C'est bien cela.
C'est bien cela. Et donc, on peut préciser qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle créature. Nous restons ce que nous sommes. Mais il y a en nous cette nouvelle semence qui est incorruptible, qui n'est pas touchée par le mal, parce que elle est donnée par Dieu lui-même.
Et quand tu parlais de régénération, il s'agit bien de ce nouvel homme qui est régénéré. Vous qui êtes régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui est permanente, donc invariable.
Et donc, la parole de Dieu, c'est toute la vérité. C'est là que Dieu se révèle comme étant amour, lumière, sainteté, pureté, immuable, on l'a déjà présenté. Et donc voilà toutes ces qualifications que l'on peut trouver dans la personne de Dieu, dans ce qu'il est lui-même, dans tous ses attributs, que nous accédons maintenant, nous participons maintenant par cette nouvelle nature à toutes ces choses merveilleuses de la personne de Dieu. Mais nous pouvons aussi le considérer dans la personne du Seigneur Jésus, son Fils qui est venu sur la terre.
Tout en étant Dieu, il a été parfaitement homme, et le seul homme que la terre ait jamais porté qui a été incorruptible. Jésus-Christ, en qui il n'y avait pas de péché, qui n'a pas commis de péché, et qui n'a pas connu le péché. Donc nous avons là dans l'exemple de Christ incarné en forme d'homme sur la terre, l'incorruptibilité en personne. Le seul homme incorruptible au milieu d'une humanité, au milieu d'une génération complètement enfoncée dans la boue du péché, dans la boue de la corruption. Et il est merveilleux de penser que le Seigneur Jésus, au travers de son chemin, de la crèche jusqu'à la croix, a traversé la terre, une terre corrompue complètement, sans jamais contracter, sans être contaminé par cette corruption du monde. Il est resté pur, il est resté saint, il est resté totalement Dieu lui-même dans tous ses caractères et dans tous ses attributs.
Et on le voit d'une manière remarquable, dès qu'il commence son ministère ici-bas, d'abord il vient rencontrer Jean le baptiseur au Jourdain, il s'identifie avec son peuple, en descendant lui-même dans le Jourdain, mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est la voix qui se fait entendre du ciel, en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir ». Dieu peut se réjouir, prendre son plaisir dans cette personne du Seigneur Jésus qui va, comme on vient de le dire, traverser la terre. Mais dès ses premiers pas, que se passe-t-il ? Satan, comme il a été voir Adam et Ève, Satan vient, s'approche de Jésus aussi, et par trois questions, reproduit ce que nous avons déjà vu tout à l'heure, ce sont la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Mais le Seigneur Jésus prend la parole de Dieu elle-même pour répondre à Satan. Cette parole qui nous donne cette semence incorruptible, le Seigneur s'en sert pour répondre à Satan et Satan se retire de lui.
Alors c'est très intéressant, ces deux aspects. Alors le premier aspect, c'est que le Seigneur, lorsqu'il a été baptisé au Jourdain, c'est très joli de voir comment Dieu, alors que les hommes pourraient croire qu'il est un homme comme les autres, Dieu met en évidence le caractère différent de celui-là. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Attention, il ne faut pas confondre avec les autres hommes. Celui-ci, il est pur, il est sans souillure, il est le fils de Dieu. Et ce fils de Dieu, cet homme parfait, le fils de l'homme, a été tenté dans le désert. Il n'était pas, lui, dans un jardin de délices avec toute l'abondance que Dieu avait fournie à Adam et Ève. Lui était dans un désert, jeûnant pendant 40 jours et 40 nuits, étant tenté par le diable. Les conditions dans lesquelles il se trouve sont beaucoup moins favorables que celles d'Adam et Ève. Et en effet, Satan a utilisé la même stratégie, la même technique pour essayer de le faire tomber dans la corruption, dans le péché. Et même que Satan a utilisé la parole de Dieu. Et nous voyons que Satan est capable d'utiliser des versets exacts de la parole de Dieu, mais son but étant de corrompre la personne à qui il s'adresse. Et donc il dénature la raison pour laquelle la parole de Dieu est donnée. Et sortir un verset de contexte n'est pas la vérité. Quand on dit « ta parole est la vérité », c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Et nous voyons dans l'exemple parfait du Seigneur Jésus qu'il répond en contexte, en disant « la parole dit ça, mais elle dit ça aussi ». Il faut bien mettre les choses en contexte, en correspondance entre elles, pour bien comprendre la pensée de Dieu. Et nous voyons donc que cette parole immuable et parfaite de Dieu, incorruptible en elle-même, dans sa intrinsèquement, eh bien, a la vertu de nous libérer de la corruption ou des attaques de la corruption pour rester pur. Et le Seigneur Jésus nous en a montré un bel exemple dans le désert.
Alors maintenant, on peut considérer pour justement cette nouvelle semence, cette nouvelle nature qui est dans l'homme, de voir quels en sont les résultats de cette incorruptibilité qui nous a été donnée par Dieu, par le Seigneur Jésus, par la parole, par l'Évangile. Et donc c'est bien dans ces trois moyens, pourrions-nous dire, de la révélation que Dieu nous enseigne, nous montre et nous réjouit, puisque nous entrons maintenant dans cette sphère merveilleuse de la relation avec Dieu, par sa parole, par la personne du Seigneur Jésus, avec qui nous pouvons avoir une relation intime, par la prière, par les choses qu'il nous révèle, mais aussi par l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est pas simplement « vous êtes sauvés », c'est aussi un ensemble de choses que nous connaissons, que nous apprenons à connaître, de ce que Dieu nous donne par l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus à la croix.
Oui, on pourrait dire, en fin de compte, l'Évangile, ce n'est pas seulement la joie et la bonne nouvelle de recevoir un salut, mais aussi un sauveur. Et nous n'aurons jamais fini d'apprendre à connaître ce sauveur, la personne du Seigneur Jésus. C'est d'une richesse et d'une profondeur infinie. Et c'est toujours bon de savoir qu'il est incorruptible. Il est parfait, il est beau, il est pur, il est immuable, invariable, il est ce roc sur lequel se fonde ma foi. Et le fait que l'Évangile soit incorruptible aussi me donne la certitude que mon salut est garanti, qu'il n'est pas possible que je perde le salut, puisqu'il est basé sur un Dieu qui ne change pas et qui ne change pas d'avis face à la corruption.
Et on peut ajouter d'ailleurs que depuis la mort du Seigneur Jésus, 2000 ans se sont écoulés. Ce qu'il a accompli, l'Évangile qui nous est donné, est le même. Il n'a pas été modifié avec le cours du temps, et il parle à toute âme aujourd'hui, comme il parlait lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, et qu'il lui-même annonçait la repentance, la rémission des péchés, et qu'il faisait cette prédication pour les hommes, pour se tourner justement des ténèbres du péché vers lui, qui était la lumière, qui était l'expression même de cette incorruptibilité.
Oui, c'est bien un évangile incorruptible, qui traverse les siècles, qui traverse le temps, et qui ne perd pas sa puissance. L'évangile est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Aujourd'hui, autant qu'au premier jour de la grâce, il y a 2000 ans. Il y a cette incorruptibilité de l'évangile. Et c'est un cadeau qui nous est donné gratuitement de la part de Dieu. Quelle joie de savoir que l'Évangile, eh bien, il a cette qualité d'incorruptibilité. Et avec l'Évangile, eh bien, nous avons reçu aussi la nouvelle naissance et donc la nouvelle nature, cette nouvelle création qui est en nous, ce nouvel homme à l'image de Christ. Et ce nouvel homme, il est bien établi dans l'épître de Jean qu'il n'est pas possible qu'il pêche. Il est donc incorruptible. Il est celui qui réjouit Dieu une fois que nous sommes sauvés en chacun de nous. Et c'est ainsi que nous pouvons donc participer de la nature divine, comme il est dit dans l'épître de Pierre, chapitre 1, premier épître de Pierre, chapitre 1, nous participons donc de la nature divine, ayant échappé à la corruption. Et c'est quelque chose de très pratique, ce n'est pas juste une théorie lointaine, non, c'est quelque chose. Cette incorruptibilité fait donc maintenant partie de notre vie quotidienne, de cette marche en nouveauté de vie du chrétien, à la suite du Seigneur Jésus dans ce monde.
Alors, on peut sans doute constater, lorsque l'on marche avec le Seigneur Jésus, lorsque l'on pratique les choses qui nous sont enseignées dans la parole, que le monde qui nous entoure trouve étrange que nous ne participions pas à toutes les choses que lui pratique. Et il y a bien des choses, lorsqu'on est dans une vie active, où l'homme essaye d'entraîner et ne comprend pas pourquoi certaines personnes n'exécutent pas certaines choses que eux veulent réaliser. Et il y a sans doute la course à l'importance, la recherche de facilité dans ce monde, toutes sortes de choses dont le chrétien, celui qui a cette nouveauté de vie, n'a pas la recherche puisque il possède déjà quelque chose de merveilleux dans le ciel.
Oui, il y a un verset qui reprend cette pensée, c'est 1 Pierre 4, verset 4, où il nous est dit « Il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même bourbier de corruption. » C'est étrange pour quelqu'un qui n'a que la chair, c'est-à-dire la nature adamique, pécheresse et corrompue, de voir que nous pouvons avoir d'autres centres d'intérêt ou chercher, courir après d'autres choses que les choses corrompues, les choses qui passent. Tout ce qui est corrompu va passer. Mais nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et nous ne nous amassons pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille corrompent, mais nous nous amassons des trésors dans le ciel qui ont une valeur éternelle. Et donc, ils trouvent ça étrange. Beaucoup de gens peuvent trouver ça étrange et vont probablement essayer de nous attirer vers le bas dans la corruption avec eux. Une des raisons serait que la nature humaine, eh bien, veut faire tomber quelqu'un. Par exemple, si moi je suis dans le péché, la corruption, je vais tenter d'attirer les autres dans ma condition à moi pour me valider, pour valider ma façon de vivre, pour ne pas me sentir repris ou jugé par quelqu'un qui ne le fait pas. Et ainsi, je peux lui dire, même si je ne le prononce pas, tu vois, tu n'es pas meilleur que moi. Et alors, si nous ne tombons pas dans cette tentation, eh bien, ils trouvent ça étrange. Et notons bien que dans le verset, il est dit « étrange que vous ne couriez pas avec eux ». Il s'agit de courir, c'est la course à la corruption, c'est la course au gain immédiat des yeux, de la chair et de l'orgueil de la vie. Mais nous ne sommes pas dans cette course. Nous sommes dans nous courons dans la lice différemment. Nous courons pour Dieu et non pas pour nous-mêmes.
Et donc, ce que l'homme, dans son péché, doit voir, justement dans le chrétien, c'est cette parure, cette beauté de l'homme qui est caché du cœur, parce que, voilà, les choses sont internes, sont intérieures. Elles doivent se montrer, elles doivent se démontrer, mais, voilà, il y a cet homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. Voilà deux attitudes aussi que l'incorruptibilité apporte aussi, c'est un esprit doux et paisible. Le monde est un monde de violence, on l'a vu, un monde de tromperie, par toutes sortes de moyens, de corruption, mais ici, voilà, c'est un esprit doux et paisible. Celui qui attend en paix la délivrance, pour revenir à ce sujet, la délivrance qui va s'opérer par le retour du Seigneur Jésus.
Et cet esprit doux et paisible, évidemment, ne peut provenir que de la nouvelle nature. Et il nous est dit qu'il est un grand prix devant Dieu. Un grand prix devant Dieu. Dieu apprécie les choses qui l'honorent aux yeux des gens du monde. Alors c'est quoi la douceur? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. On pourrait dire la douceur, c'est le caractère qui est totalement étranger dans ce monde. C'est-à-dire le caractère de ne pas insister sur ses propres droits. Là, c'est véritablement une véritable douceur. Quelqu'un qui n'insiste pas sur ce qui lui est dû dans ce monde, eh bien, c'est de la douceur. C'est d'un grand prix devant Dieu. Nous pensons au Seigneur Jésus qui ne menaçait pas quand on l'outrageait, par exemple. Eh bien, pour les gens du monde corrompus, pour ceux dont les pensées sont corrompues, eh bien, ils peuvent même penser que c'est de la faiblesse. Mais il faut être très fort, spirituellement, pour être doux dans un monde corrompu. Il faut être très stable, il faut être en relation avec le Seigneur, il faut véritablement vivre par le nouvel homme, celui qui ne s'irrite pas, mais qui trouve son réconfort et sa force en Dieu.
Et donc, dans cette vie pratique de tous les jours, il y a aussi alors ces bonnes œuvres qui sont préparées à l'avance, dans lesquelles nous devons marcher, les rechercher, persévérer dans ces bonnes œuvres pour justement connaître cette gloire qui se trouve dans le ciel, non pas celle sur la terre. Cet honneur, non pas l'honneur des hommes, mais l'honneur de Dieu, et donc aussi l'incorruptibilité. En pratiquant ainsi les bonnes œuvres, les choses qui sont bonnes aux yeux de Dieu, alors là aussi nous faisons l'expérience de l'incorruptibilité.
Ce sont bien des œuvres de foi, c'est-à-dire des œuvres que nous faisons par la foi, pour le Seigneur. Alors, les hommes ont l'habitude d'être des voleurs de gloire. Ils aiment s'attribuer la gloire. Or, il n'y a aucune gloire pour aucun homme. La gloire appartient à Dieu, elle appartient au Seigneur Jésus. Personne ne peut obtenir de la gloire pour lui-même. cette gloire ne fera que passer. Elle est factice, elle est éphémère. Mais nous, lorsque nous persévérons dans les bonnes œuvres, il faut persévérer. Il faut rechercher ces œuvres-là. Ce sont des œuvres, les bonnes œuvres sont des œuvres de foi qui sont faites par conscience envers le Seigneur et par amour envers lui, qui sont utiles aux hommes et qui honorent Dieu. Et tout travail fait pour le Seigneur n'est pas fait en vain. Et donc, nous recherchons la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité. Mais ce n'est pas notre gloire que nous recherchons, c'est celle de notre Dieu et l'honneur de notre Dieu. Et nous recherchons dans ces bonnes œuvres l'incorruptibilité, c'est-à-dire que ce soit des œuvres véritablement qui plaisent à Dieu, dans la sainteté de Dieu, et non pas n'importe quelle œuvre, n'importe quel activisme, mais véritablement selon la pensée de Dieu. Comme tu l'as dit, ces œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Et jusqu'au bout du chemin, qui peut être bientôt.
Mais ce chemin n'est pas un chemin facile. C'est un chemin de combat. Et la parole fait d'ailleurs allusion à ce chemin en comparant celui qui est dans l'arène et qui combat, comme autrefois, ceux qui étaient là devant cette population et qui devaient combattre dans l'arène. Eh bien, il combat, lui, pour sa gloire propre à ce moment-là. Mais de nouveau, le chrétien, comme on vient de l'expliquer, ne recherche pas quelque chose pour lui qui ne va servir que pour un temps, le temps de la terre. Mais il cherche cette couronne de gloire qui sera, elle, dans le ciel, qu'il recevra de Dieu lui-même dans le ciel. Et celle-là sera incorruptible.
Oui, c'est un combat, en effet. C'est le combat de la vie chrétienne, mais c'est un combat qui vaut la peine. Et la victoire, c'est pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur dit aussi à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Nous sommes, nous qui suivons le Seigneur, qui avons le Seigneur pour maître, nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire que le sel est utilisé pour purifier ce qui était offert à Dieu. Dans l'Ancien Testament, déjà, dans les offrandes qui étaient offertes à Dieu, il fallait qu'elles soient salées pour qu'elles soient agréées de Dieu. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elles soient dénuées, débarrassées de corruption. Sinon, Dieu ne pouvait pas l'agréer. Et donc, nous sommes le sel de la terre, évidemment, par notre nouvelle nature. Cette nouvelle nature, eh bien, est agréable à Dieu. Et elle est incomparable par rapport à ce qui se trouve sur la terre. C'est la seule chose sur la terre en laquelle Dieu trouve du plaisir, c'est-à-dire dans ceux qui ressemblent à Christ par leur nouvelle nature. Vous êtes le sel de la terre.
Mais il y a aussi, justement, le sel est là pour intervenir contre la corruption. Cela veut dire que les chrétiens dans ce monde ont aussi ce travail à faire pour limiter la corruption. Et l'Esprit lui-même, nous savons par l'Épître aux Thessaloniciens, est présent sur la terre dans tous les chrétiens, il agit, et donc il nous conduit. Et le jour où l'Église sera enlevée, l'Esprit partira aussi, et à ce moment-là, il n'y aura plus de retenue. La parole dit « celui qui retient ».
En parlant du Saint-Esprit.
En parlant du Saint-Esprit, qui agit dans le croyant, qui devient justement ce sel de la terre, puisqu'il limite la corruption dans ce qu'il fait pour Dieu, il limite la corruption dans le monde. Et donc, quand ce sel va disparaître, quand l'Église partira, quand le Saint-Esprit se retournera à Dieu, eh bien, la corruption alors là, va exploser dans ce monde.
Va reprendre toute la place. Oui. Pour en revenir à un aspect plus personnel concernant le sel, il nous est dit aussi dans la parole que vos paroles soient assaisonnées de sel. Alors, si nous parlons, quand nous parlons, à qui que ce soit à des frères et sœurs dans la foi ou à des personnes étrangères à Dieu, ou qui le sont encore, eh bien, il faudrait que nos paroles soient saintes, c'est-à-dire qu'elles aient le goût de Christ, de la grâce et de la pureté de Christ. Si nous parlons de Christ, alors nos paroles seront assaisonnées de sel. Mais si nous parlons de n'importe quoi, des choses de ce monde qui sont corrompues, alors le sel perd sa saveur. Nous n'avons plus la saveur du sel dans notre vie, notre comportement, dans nos paroles. Mais que nos paroles soient toujours assaisonnées de sel. Alors ça nous parle de manière très pratique à la façon dont nous nous exprimons et de quoi nous parlons à ceux qui nous entourent.
Alors on peut en venir au terme du voyage sur cette terre de chaque croyant. Il y a de chaque chrétien, pour être plus précis. Il y a cet héritage qui nous est présenté dans la première épître de Pierre au chapitre 1er. Nous avons un héritage incorruptible, sans souillure, inflétrissable, conservé dans les cieux pour nous. Voilà quelque chose de merveilleux aussi. Nous ne cherchons pas un héritage terrestre, cherchons un héritage céleste, mais il est déjà préparé pour nous. Il est conservé. Donc voilà, tout ce qu'on a parlé de la corruption, tout ce qui touche la terre ici et qui se flétrit, qui se dissout, qui se détruit, eh bien, au contraire, là-bas, dans le ciel, cet héritage a beaucoup de qualificatifs. Il est incorruptible, pas de corruption. Il est sans souillure, donc il n'a pas été touché même par ce que l'homme peut faire lui-même. Il est inflétrissable. C'est comme une fleur qui pousse et qui resterait comme cela, continuellement dans sa beauté. Et il est conservé dans les cieux pour nous.
C'est très encourageant de penser à ces choses-là. Lorsque nous pensons à l'héritage en contraste avec l'héritage sur la terre, comme en Luc 15, ce fils qui demande sa part de l'héritage à son père et qui part et qui dilapide tout dans ce monde jusqu'à se retrouver misérable. Il a tout perdu. Il se retrouve misérable à travailler avec les cochons, les pourceaux, et il a faim, il voudrait manger ce qu'on donne aux pourceaux. Voilà où est l'héritage du monde qui est dilapidé dans la corruption, en contraste avec l'héritage qui nous est, nous, destiné en Christ dans la gloire du ciel. Quelle merveille! Quelle merveille! Un état éternel, un état de sainteté, toutes les richesses de la divinité, plus aucune interférence avec la corruption. Notre corps sera changé en la conformité du corps de sa gloire. Et nous entrerons dans le lieu où il n'y aura pas d'interférence, pas d'altération, pas de corruption, où tout est gloire. Tout est gloire autour de Christ. Où Dieu sera tout en tous.
Et donc, il y a ce retour du Seigneur Jésus, et on peut lire dans 1 Corinthiens 15, alors, à partir du verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités, incorruptibles, et nous, nous serons changés, car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité. » Voilà donc cette manifestation de la puissance de Dieu, qui, que ce soit ceux qui se sont endormis, qui sont dans la terre, dont l'âme est déjà, bien sûr, dans le ciel, mais leur corps repose dans la terre, ou bien ceux qui sont vivants sur la terre, eh bien, tous ensemble, nous allons partir vers le ciel, et là, nous revêtirons l'incorruptibilité.
Amen. À bientôt pour d'autres sujets bibliques.